Chapitre 12. Évidemment, la gloire de la sculpture des Pays-Bas est ici à Dijon, pensait Durtal, en tournant autour du puits de Moïse, qu'il était revenu voir dans l'asile d'aliénés, bâti sur l'emplacement de l'ancienne chartreuse de Champmolle, située à 10 minutes de la gare. Cet établissement, où l'on pouvait, à certains endroits, s'abstraire loin des fous, eût été un refuge de rêverie et d'art, si l'on avait pu s'asseoir tranquille devant ce puits, sans être toujours accompagné d'un concierge, attendant que l'on eût fini d'examiner les sculptures pour refermer le grillage qui les enclôt et vous reconduire, par les voies les plus courtes, dehors. L'hospitalière ville de Dijon était, en ce lieu, insupportable. Aussi, quand il s'était bien rempli les yeux de l'œuvre de Sluter et de ses élèves, Durtal s'en allait-il la digérer plus loin, dans le délicieux jardin botanique qui borde la route de Plombières, en face du remblai des trains. Par le soleil de ce matin-là, les feuillages des grands arbres de l'asile se tachetaient de gouttes d'or, qu'il reversait en gouttes bleuâtres sur les cailloux du sol. L'on cheminait dans les allées sous un crible de lumière et d'ombre, et la haie serrée des cyprès, que l'on devait longer pour atteindre le préau où se trouvait le puits, parfumait d'un fleur léger de résine le vent. C'était dans ce préau solitaire que s'élevait le monument commandé par Philippe le Hardi à Claude Sluter, assisté des imagiers les plus habiles de son temps. Ce monument émergeait de l'intérieur même du puits, supporté par un piédestal hexagone sur les pans duquel se tenaient les statues des 6 prophètes qui avaient annoncé la passion du Christ, et il était surmonté d'une plateforme appuyée sur 6 anges pleurant au-dessus des prophètes. Sur cette plateforme, cette terrasse, comme l'appellent les anciens textes, se dressait jadis un calvaire disparu, dont quelques débris avaient été recueillis par le musée archéologique de la ville. Le tout était abrité dans une énorme volière en fil de fer plafonné d'un toit et garni au-dedans, par-dessus la margelle même du puits qu'il dépassait, d'un plancher courant de bois et d'une balustrade au-dessous de laquelle l'on voyait l'eau quasi morte, dans laquelle trempait le piédestal, verdi par les mousses au fond du trou. Et l'on se promenait sur ce balcon, autour des effigies des prophètes taillées grandeur nature dans des blocs de pierre qui avaient été autrefois peints par Malouel, mais étaient redevenus avec l'âge d'un ton uniforme où il entrait un peu de blond et beaucoup de gris. La plus surprenante de ces statues, celle qui vous accaparait aussitôt par la véhémence imprévue de son aspect, était celle de Moïse. Enveloppé d'un manteau dont l'étoffe aussi flexible qu'un véritable tissu ondoyait en de souples plis, descendait en de mourantes vagues de la ceinture aux pieds, il étreignait d'une main les tables de la loi, et de l'autre un rouleau déployé sur lequel se lisait la phrase de l'Exode devancière des temps. « La multitude des enfants d'Israël immolera un agneau vers le soir ». La tête était chevelue, énorme, avec le front renflé en guise de corne, de 2 bosses ridées d'accents circonflexes au-dessus de l'œil qui clignaient, dur et presque insolent. La barbe bifide roulant sur les joues, tombant en 2 énormes coulées sur la poitrine, laissant à sec un nez en bec d'aigle et une bouche impérieuse, sans indulgence et sans pitié. Sous cette crinière de fauve, la face soulevée s'avançait implacable. C'était le visage d'un justicier et d'un despote, un visage de proie. Moïse semblait écouter les excuses embarrassées des tribus coupables, prêts moins à pardonner qu'à châtier cette tourbe d'hébreux qu'il savait apte à toutes les défections, à toutes les idolâtries, à toutes les hontes. Cette figure d'orage qu'on sentait sur le point d'éclater était d'une allure presque surhumaine. Elle était en tout cas autrement éloquente, autrement altière, soit dit en passant, que celle du Moïse que refit, moins d'un siècle après, un Michel-Ange, un Moïse également pourvu de cornes et d'une barbe de fleuve. Seulement, lui n'érigea qu'une attitude, ne sculpta qu'un colosse indifférent, aux formes robustes, majestueuses même, si l'on veut, mais un colosse redondant et creux. Malheureusement, il faut bien l'avouer, le Moïse de Sluter était le seul qui témoignait d'un art plus que réaliste et d'un certain essor parmi les statues réunies du groupe. Les autres n'étaient plus, en effet, que des œuvres terre-à-terre, admirables, mais sans surgie d'âme, sans envolée dans l'au-delà. La plus typique, en ce genre précis et plat, était celle du roi David, qui se dépréciait, par contraste, du reste, en l'avoisinant. Le chef ceint d'un diadème, les cheveux longs et bouclés, la barbe divisée sous le manteau en deux touffes timorées, il s'annonçait, la main posée sur une lyre et déroulant de l'autre un phylactère sur lequel étaient gravés ces mots. Ils percèrent mes pieds et mes mains et dénombrèrent mes os. Ce David avait la placide figure d'un Hollandais blond et, tirant sur le roux, d'un bon bourgeois un peu soufflé, nourri de fumure et de salaison, engraissé par de pesantes bières. Il était le futur roi bois de Jordans, avant l'épiphanie et avant le repas. Il s'attestait, en somme, plus alourdi que désolé, plus somnolent que songeur. Cette statue était parfaite en tant que portrait d'homme du Nord, riche et un peu dédaigneux, plus apte à jouer du vidre-comme que de la lyre, mais elle était absolument insuffisante pour représenter la préfigure du Christ et le psalmiste. Plus recueilli, plus sérieux, était le prophète Jérémie, placé à ses côtés. Coiffé d'un chaperon, les joues et le menton ras, le nez busqué et les yeux clos, il tenait de sa main droite un livre grand ouvert, et de la gauche, une banderole avec cette inscription « Ô vous qui passez, voyez s'il est une douleur comparable à la mienne. » La physionomie était moins douloureuse que réfléchie. C'était celle d'un des religieux de la chartreuse de Champmolle, qui avait sans doute servi de modèle, en tout cas, celle d'un prêtre en train de faire sa méditation. Elle était prise sur le vif et avait dû être d'une ressemblance à crier. Mais quel rapport ce prêtre tranquille avait-il avec Jérémie, dont l'existence d'épreuves et de larmes fut considérée autant qu'une vivante prophétie des souffrances du Christ? Et l'on pouvait en demander autant pour Zacharie, couvert d'un étrange chaperon où il y avait du chapiteau d'église et de la tourte. Lui baissait vaguement affligé une tête paysanne de vigneron, aux moustaches seules rasées dans un flot de barbe. Sûrement l'on avait aperçu ce vieillard derrière un comptoir, ou dans un chai, préparant les envois de ses queues et de ses tonnes aux débitants des villes. Cette face terrienne et marchande était un peu exhaussée par les tribulations et anoblie par les peines, mais elle exhalait quand même l'odeur de sa caque. Était-ce bien ces paroles qu'il affichait sur sa feuille dépliée de parchemin? Ils ont apprécié ma rançon à 30 deniers, qui le navrait de la sorte? Il avait plutôt l'air de déplorer la perte d'une vendange que la mort du Verbe. Autre était son voisin, Daniel, désignant violemment du doigt le phylactère sur lequel était écrit « Après 60 générations, le Christ sera oxy ». Celui-là discutait rageur contre les incrédules. Dans cette réunion taciturne, lui seul parlait. Et il n'était nullement mari, mais rebiffé. Il était un bourguignon qui avait la tête près du bonnet et qu'il ne fallait point contredire. Coiffé d'un turban lâche d'étoffe, revêtu d'une ample robe retenue par une ceinture, drapé dans un manteau magnifique, aux parements studieusement brodés, il se détachait de profil, le nez en lame de serpe, les cheveux ondulés, la barbe fleurie de petites bulbes. Il tenait à la fois du négociant et du juriste, du négociant riche surtout. Il devait acheter les vins de Zacharie, intimidé par son ton agressif les objections des clients, hâté par la fougue de ses boniments les ventes. Enfin, Isaïe affirmait autant, sinon plus que les autres, le désaccord trop certain qui existait entre ces statues et les personnages qu'elles étaient censées représenter. Lui apparaissait sous les traits d'un vieux juif, d'un rabbin des jus d'Angaz, d'un patriarche des ghettos. Le crâne rond, chauve, creusé de ravines sur le front, chaque joue sabrée de profondes rides au-dessous du sécateur qui lui servait de nez, la barbe en fourche, les moustaches retombant à la chinoise, aussi longues que la barbe, et les yeux aux lourdes paupières presque fermées, il penchait tristement la tête, un livre sous un bras, et, pendant au bout de l'autre, un rouleau sur lequel était tracée cette phrase « Comme une brebis à la boucherie, on le conduira, et comme un agneau, en présence du tondeur, il sera muet et n'ouvrira pas la bouche. » En aucun temps l'on n'avait extrait de la pierre une image plus incisive et plus vivante, une effigie plus véridique, un portrait plus beau. Mais ici encore la même question se posait. Quelle analogie pouvait-on relever entre cet octogénaire là et triste et l'évangéliste de l'Ancien Testament, le Nabi en tumulte, l'impétueux, le vitupérant Isaïe? Le Moïse mis à part, dont la face léonine et l'allure grandiose spécifiaient bien l'être extraordinaire que fut cet homme, les autres prophètes de Sluter n'incarnaient qu'un Gambrinus à jeun, un chartreux ou un prêtre, un vigneron, un négociant, un juif. Et Durtal, rôdant encore autour d'eux, se disait « Oui, mais si l'entente entre ces personnages et les prédictions qu'ils annoncent ne surgit point, si les lamentations des événements qu'ils promulguent n'émeut pas suffisamment ces héros des symboles divins, c'est parce que Claude Sluter en a décidé volontairement ainsi. Ces visages sont plus ou moins absorbés, plus ou moins dolents, mais l'expression de leur peine s'en tient là. Les prophètes s'attristent, mais les anges qui les surmontent en les séparant pleurent. Le rôle des pleurants est en effet spécialement dévolu en cette œuvre aux anges, et vaguement, en cherchant bien, l'on discerne les motifs de ce choix. Les prophètes ont vu la passion du Messie, dans la mesure où Dieu voulut bien la leur montrer, et chacun d'eux répète le détail qui lui fut le plus particulièrement livré. Ils se complètent les uns les autres, le Seigneur ayant divisé les visions et ne les ayant pas départies toutes d'emblée à un seul. Ils devaient être consternés par la certitude acquise que ce peuple incorrigible qu'ils étaient chargés d'avertir et de réprimander commettrait le plus abominable des forfaits en crucifiant le Christ. Mais, une fois les révélations messianiques reçues et propagées parmi les familles d'Israël, ils vivaient dans le présent, dans leur époque, et il est compréhensible que cet avenir qu'ils n'étaient pas appelés à voir de leurs propres yeux, et qu'ils n'apercevaient d'ailleurs que fragmenté dans la lumière divine, ne les ait pas jetés dans un état permanent de larmes. Sluter a donc eu peut-être raison de limiter les indices de leurs sentiments et de confier les signes plus manifestes de la douleur aux purs esprits qui, tout en ne pouvant découvrir par eux-mêmes l'avenir, ont un mode de connaissance plus subtil que le nôtre et sont en tout cas indépendants, en leur être, des conditions de temps et de lieu. Une autre question à tirer au clair serait celle de déterminer la part assignée à ses collaborateurs dans cet édifice. En sus de Klaus de Verve, qui a, nous le savons, sculpté les anges, plusieurs sculpteurs travaillaient sous ses ordres. Hennequin de Prindal, Rogier de Vesteren, Pierre à Plemin, Vuilquin Semon, pour en citer quatre dont les noms me reviennent. Un autre, appelé Jean Hulst, semble indiquer plus particulièrement, tel qu'un ornementiste, ciseleur de feuillages et de chapiteaux. Dans quelle mesure contribuèrent-ils à parfaire les figures du puits? D'après les contes de la Chartreuse, conservés dans les archives de la Côte d'Or, il paraît que Klaus de Verve et Hennequin de Prindal auraient sculpté certains morceaux des statues des prophètes. Lesquels? Serait-ce la partie des parures et des ornements? S'il en était ainsi, ils seraient, il faut bien l'avouer, en leur genre, les plus étonnants des spécialistes, car les harpes brodées sur le manteau de David, les festons, les rinceaux, les croix grecques, qui passementent ceux de Daniel et d'Isaïe, les boucles ciselées de leurs ceintures de métal et d'étoffe, Les livres de Jérémie et d'Isaïe, avec leurs feuilles de pierre aussi flexibles que des feuilles de velin, leurs reliures à plaques, à cabochons, à courroies, à coins, sont exécutés avec une adresse et presque une sorte de trompe-l'œil qui déconcerte. Jamais, en l'art de la sculpture, accessoire n'eût été plus pertinemment œuvré, plus patiemment rendu. Mais rien ne prouve qu'il se soit confiné dans des reproductions de nature morte et qu'il n'ait pas travaillé aussi aux parties vives des modèles. Le nom de Sluter couvre tout, et, faute de renseignements plus précis, il absorbe à lui seul la gloire des humbles imagiers qui l'aidèrent. Et ils étaient, non de simples ouvriers, mais bien de personnes artistes, car, après la mort de Sluter, ce fut l'un des deux, Klaus Devervre, qui devint le sculpteur en titre du duc, et c'est à lui que l'on doit l'achèvement de l'ouvrage, commencé par De Marville et Sluter, le tombeau de Philippe le Hardi, actuellement au musée de la ville. Il y besogna, assisté lui aussi par d'autres entailleurs de pierre, dont il accapara à son tour la part de gloire. Et ce labeur dura 5 ans. « C'est singulier, » murmurait Durtal, en regardant encore, avant de partir, le groupe des prophètes en son ensemble, comme ce Sluter, qui vivait à la fin du XIVe siècle, annonçait déjà, bien avant la mort du Moyen-Âge, la Renaissance. Son art est étrangement en avance sur les données de son siècle. S'il n'avait plus ce concept vraiment mystique des imagiers des époques précédentes, s'il répudiait leurs visages émaciés et brûlants, leurs poses hiératiques, leurs corps effilés presque fluides, contenus dans des gaines d'étoffes rigides, tuyautées de longs plis, il apportait en échange des attitudes moins contraintes, des physionomies plus naturelles de gens redevenus, sur la terre, pesants. Il apportait un jeu de draperie plus malléable et de dessous plus souple. Il apportait surtout un don d'observation et une puissance à insuffler la vie qui font de lui l'un des plus grands artistes de tous les temps. Il était certainement pieux, puisqu'il a terminé ses jours dans un cloître, et cependant son art ne décèle qu'une piété de superficie, qu'une piété de commande. Ses portraits sont ceux de gens qui se préoccupent plus de leurs propres affaires que de celles de Dieu. Ses prophètes sont des prophètes de marché et de coin de feu. Son œuvre n'a pas été préparée par la prière, et elle ne suggère pas l'idée de prier devant. Et c'est là la tare de cette sculpture, si on l'envisage au point de vue où d'ailleurs elle-même se place. Car le tout est de s'entendre. Si Sluter ne nous avait pas présenté ces personnages comme étant des personnages de la Bible, s'il les avait simplement étiquetés sur un monument civil sous le nom de négociants, de prêtres et d'échevins, il n'y aurait qu'à admirer, et sans aucune restriction, le talent immense de cet homme. Le calvaire qui était autrefois érigé sur le socle et dont il subsiste des débris était-il d'un sentiment plus religieux? J'en doute, poursuivit Durtal. J'ai vu au musée la tête retrouvée du Christ. Elle est correcte, d'un art déférent, d'une expression pathétique, d'une dévotion sonore. Mais elle n'est pas supraterrestre, elle n'est pas divine. Et quant à la Vierge, dressée sur le portail de la chapelle, à quelques pas d'ici, elle suggère l'idée d'une femme méchante, prête à fouetter un enfant qui pleure. Je refuse de croire que cette Vierge soit de lui. L'homme qui, à défaut de l'influx mystique, a tout de même su rendre la grandeur épique d'un Moïse, n'a pu concevoir un type aussi vulgaire et aussi mensonger de Vierge. Non, ce que je préfère, la petite Madone de la fresque qui s'efface sur le mur de Notre-Dame de Dijon. Et au fond, c'est la réflexion qui me vient. Le vrai sens divin, il n'est ni ici ni au musée, mais dans les oraisons peintes de cette église. Oui, je sais bien, je t'embête, reprit-il, considérant la concierge qui commençait à agiter furieusement son trousseau de clés. Si tu te fiches de Sluter et Klaus Devervre, dont tu as cependant appris les noms pour les réciter aux touristes, et ces imagiers vont te valoir, une fois de plus pourtant, 10 sous. Tu devrais songer à eux, à ces braves Hollandais qui m'incite d'outre-tombe à te donner la pièce. Et ce n'est que juste, car tout ici-bas, même les rêveries, se paient, fit-il en quittant l'asile. Il se rendit à petits pas au jardin botanique. Il était formé de l'ancienne promenade de l'Arquebuse, réunie au jardin des plantes, et il était charmant avec ses chemins intimes, ses hautes frondaisons, ses massifs de fleurs, ses pelouses au gazon semé de pâquerettes et de boutons d'or. Certaines charmilles lui rappelaient la trappe de Notre-Dame de Lâtre, et certains bancs de pierre adossés à la maison du XVIIIe siècle qui s'étendait devant le jardin, l'ancienne pépinière du Luxembourg. Le matin, quelques bonnes tricotaient près d'un gigantesque peuplier dont le tronc creux s'ouvrait en une grotte de bois au ras du sol. Cet arbre, qui figurait sur d'anciennes vues cavalières de Dijon, bombait une carapace d'éléphant rogneux, cerclée de bandages, corsetée de fonte, étayée par des béquilles, retenue par des fils de fer dans tous les sens. Et, çà et là, des prêtres lisaient leurs bréviaires, et des jardiniers brouettaient des charretées de fleurs. L'on humait près des marges des plates-bandes l'odeur de miel et d'herbes fraîches des iris. Mais par instant, l'ingénu et le sucré parfum étaient balayés par un coup de vent qui soufflait d'une bouffée de cette odeur aigre et mûre que répand le chalef, l'olivier de Bohême, dont on apercevait des spécimens au fond du jardin, trois ou quatre arbres aux troncs d'encre, aux feuilles d'argent et aux fleurettes d'or. Et cela sentait le melon avancé, la fraise qui tourne, l'emplâtre qu'on enlève. Durtal, avant de s'asseoir, faisait un tour dans les allées qui séparaient les massifs. Il y avait là des collections de conifères, des cèdres bleus, des mélèzes variés, des pins aux fûts presque blonds et aux aiguilles presque noires, et, dans les parterres, des corbeilles de roses saumonées, thé clair et soufre, des croix de malte, d'un rouge de bichromate de potasse vif, des buissons magnifiques d'aconite, aux feuilles sombres, aux découpures linéaires aiguës, aux fleurs d'un bleu céleste de turquoise, mais de turquoise dont on aurait, de leur azur trop lourd, décanté le blanc. « C'est vrai cela, ruminait Durtal, ces aconites sont des turquoises végétales aux nuances plus légères et plus pures. Mais si maintenant elle est bénite par les baladins, dont elle raccommode les cordes vocales usées par l'abus des scènes, de quelle haine cette plante ne fut-elle pas poursuivie par nos ancêtres, qui la croyaient née de l'écume de Cerbère, et la qualifiaient du plus soudain des poisons? Par contre, en voici une mieux famée, monastique au moins, reprit-il en regardant de blanches aigrettes qui fusaient en forme de jets d'eau, de touffes énormes portant au bout de tiges teintes en cramoisi de larges feuilles d'un vert sourd et lustré. C'est l'âcre et la stimulante rhubarbe, l'herbe des moines, ainsi nommée parce qu'elle abondait jadis dans les officines des cloîtres dont elle était le remède préféré. Et le fait est que le père Philigone Minet en distribuait à profusion, en cachet et en poudre, aux paysans du Val des Saints qui se plaignaient de fatigue et de malaise. Quant à ces gueuses-là, elles se sont anoblies par aucune ascendance conventuelle, et elles sont d'une laideur qui autorise à les classer dans la catégorie de ces plantes néfastes, bordant les clairières des forêts, dans lesquelles se démenait au Moyen-Âge le sabbat. Continua-t-il, examinant en un coin, parqué à l'écart, des plantes grasses alignées dans des pots. D'aucunes ressemblaient à des raquettes velues, à des lobes d'oreilles géantes hérissées de poils. D'autres affectaient des contours de serpents aux peaux pelées et piquées de crins. D'autres encore pendaient, tels que des bajoux de vieillards aux barbes pas faites. D'autres enfin s'arrondissaient en palettes pour battre les bouchons, des palettes munies de cils blancs et coupés ras. Et elles arboraient au soleil des couleurs horribles, des verts de moisissure, des jaunes d'ictère, des violets de tartre de vin, des roses de brûlure, des brins de morille pourrie, de cacao mouillé. Cette exhibition de monstres l'amusait, et il s'intéressait aux avatars de leur ton. Mais ce matin-là, il était obsédé par les sculptures du puits, et surtout par ce Klaus Schlüter dont la personnalité le hantait. Il s'éloigna des plantes grasses et, seul sur un banc, il se remémora les quelques renseignements qu'il avait lus sur cet artiste. On le savait né dans le Néerland, originaire peut-être, ainsi que son neveu Klaus de Verve, de Hattheim, au comté de Hollande. Il vint en Bourgogne, on ne connaît pas quand comment, et il entra pendant l'année 1384, en qualité de sculpteur, dans l'atelier de Jean de Marville, maître imagier et varlet de chambre du duc. Après la mort de ce Marville, qui trépassa en 1389, il fut investi de ses titres, et il travailla au tombeau de Philippe le Hardi, sculpta le portrait de la Chartreuse, le puits de Moïse, diverses statues pour les châteaux de Germolles et de Rouvres. Quel homme était-ce? Faut-il croire avec M. Cyprien Monget, qui hasarde cette opinion dans son livre très sagace et très documenté sur la Chartreuse de Dijon, que Schlüter était de caractère difficile et toujours mécontent parce qu'il faisait constamment réparer ou modifier le logis qu'il occupait, après Jean de Marville, dans une maison appartenant au duc, et surtout parce qu'il changeait d'ouvrier comme de chemise? C'est bien possible, mais il faut dire à sa décharge que d'après les devis mêmes des architectes, l'immeuble usé ou mal bâti menaçait ruine, et que, d'autre part, ces ouvriers qu'il transplantait de la Flandre et des Pays-Bas dans un pays de vignobles où le vin se vendait bon marché, étaient peut-être à certains moments ingouvernables. Nous sommes au demeurant fort mal renseignés sur sa façon de vivre et sur le plus ou moins de souplesse de son caractère. Sans crainte de se leurrer, pourtant, il est permis d'admettre qu'il avait parfois des idées singulières. Une quittance du bailliage de Dijon nous apprend en effet qu'il commanda à un orfèvre une paire de besicles pour en orner le nez de sa statue de Jérémie. Et l'on est en droit de se demander ce que pouvait bien signifier pour lui, alors qu'il s'agissait d'un prophète de la Bible, cet attribut. Mieux vaut en tout cas croire à un état d'esprit bizarre qu'à un désir de rendre plus ressemblant encore le portrait du chartreux ou du curé, qui lui a évidemment servi de modèle, car ce serait la preuve trop certaine alors d'une incompréhension ou d'une indifférence par trop naturaliste du sujet religieux qu'il s'était engagé à traiter. Si sa jeunesse ne nous est pas révélée, et si son âge mûr nous est à peu près ignoré, sa vieillesse nous est, en revanche, mieux connue. Avant même qu'il n'eût achevé les travaux prescrits par le duc, il se retira à l'abbaye de Saint-Étienne, de l'ordre de Saint-Augustin, à Dijon, et, en 1405, après un séjour de 2 ans, il y mourut. Le contrat passé entre lui et frère Robert de Bobignet, docteur en décret et abbé de ce monastère, est classé dans les archives départementales de la Côte d'Or, et l'on peut s'informer, en le lisant, du mode d'existence que Schlüter menait pendant ses derniers jours. Moyennant une somme de 40 francs d'or, dont moitié fut payée comptant, il disposait, sa vie durant, pour lui et un domestique, d'une chambre et d'un cellier dans le cloître. On lui donnait tous les dimanches 28 petits pains dits michottes ou 4 tous les jours, à son choix, plus une pinte et demie de vin, mesure de Dijon. Et chaque fois qu'il y avait distribution extraordinaire de vivres, à l'occasion d'une fête, le couvent était tenu de lui allouer une portion de chanoine. Il lui était loisible de prendre ses repas chez lui ou en ville ou dans le réfectoire de l'abbaye avec les moines. Mais dans ce cas, il apportait son pain et son vin et devait se contenter de l'ordinaire de la communauté, sans autre pitance et provende à voir. Enfin, il devenait, au terme de cet acte, féal à l'abbé et à son monastère, et il devait participer aux messes, prières et oraisons du dit monastère, qui devait à son tour profiter de ses prières et oraisons. Il fut en un mot l'oblat d'une abbaye augustine. Il y résidait, il y mangeait quand il lui plaisait, et il était maître de travailler à sa guise, de surveiller au dehors ses ateliers qui étaient situés dans d'anciennes écuries appartenant au duc. et cela fait naturellement songer à ses frères de la vie commune, qui prospéraient à la même époque en Hollande, et qui avaient été placés eux aussi par leurs fondateurs, Gérard le Grand et Radewin, sous la règle de Saint-Augustin. Leur petit cloître laïque à Damveterre était composé de savants et d'artistes qui copiaient des manuscrits, les enluminaient, s'occupaient d'art religieux tout en priant à certaines heures ensemble. La véritable raison d'être de l'oblature moderne est celle-là, se disait Durtal. Ainsi que le remarque fort bien Don Felletin, il n'y a pas à vouloir l'étendre ainsi qu'un tiers-ordre qu'elle n'est pas, au sens strict du mot. Les tiers-ordres contemporains, qui sont d'ailleurs des œuvres excellentes et constituent sans doute, avec les événements dont nous sommes menacés, les réserves d'une nouvelle sorte de monachisme pour l'avenir, suffisent. Du moment qu'elles relèvent du finage bénédictin, l'oblature, en dehors de la sanctification personnelle de ses membres, obtenue par les moyens liturgiques, ne peut poursuivre qu'un but, rénover l'art catholique tombé si bas. Il semblerait au premier abord que cette tâche serait plutôt celle des religieux, mais il est bien évident que les cloîtres ne recruteront pas souvent des artistes, car, avec les heures divisées par les offices, aucun travail de longue haleine n'est possible. L'œuvre n'est donc exécutable que si elle est confiée à des laïcs, assujettis à certaines formalités rituelles, mais vivant autour du monastère libre. Oui, celle-là, c'est la véritable, l'authentique oblature, celle que nous découvrons dans les âges les plus reculés, celle que je mène moi-même auprès de l'abbaye du Val des Saints. Elle va disparaître de France avec les moines. Les projets du père Felletin, qui étaient également les miens, sont par terre. Il s'agit par conséquent ou de renoncer à ce mode de monachisme séculier, ou de le transformer de telle manière que, tout en lui conservant son caractère du Moyen-Âge, il puisse s'adapter aux exigences de notre temps. Est-ce réalisable? Je le crois si l'on admet que l'oblature peut s'organiser d'elle-même et vivre d'une vie qui lui serait propre, sous la direction d'un ou de plusieurs pères laissés pour cette œuvre en France par un abbé. Évidemment, cette institution ne sera pas commode à établir. Il faudrait, pour qu'elle fonctionnât régulièrement, bien des choses. D'abord, des artistes pieux et ayant du talent. Où sont-ils? Je l'ignore. Mais c'est au Seigneur qu'il appartient, au cas où il n'y en aurait point, d'en faire surgir. Et s'il y en avait, d'inconnus, d'épars, ça et là, en des coins de ville, de les grouper. Il faudrait ensuite une façon de petit monastère. Les oblats n'étant plus, en effet, à même de s'installer près d'un reclusage et de participer aux offices, devraient en constituer un et pratiquer dans une certaine mesure l'exercice des heures canoniales. Mais cela n'aurait de chance de réussir qu'en adoptant quelques précautions que justifie, pour qui le connaît, le train-train du cloître. Ainsi, pour éviter les inconvénients de l'existence en commun et les inutiles bavardages qui sont de constants motifs de bisbilles et de troubles, il serait nécessaire que chacun habitât séparément une maisonnette, pareille à celle des Chartreux, les seuls captifs qui n'eurent jamais besoin, depuis leur fondation, de réforme, tant leur régime de solitude est habile et savamment dosé. Il prescrit en effet le silence et l'isolement, mais, au moment où il deviendrait trop pénible, il les rompt par des offices, et, à des jours fixés, par des repas servis non plus à part, mais dans le réfectoire, et aussi par des promenades, qui s'appellent en style cartusien des spassiments. Il ne s'agit évidemment pas de s'affilier, de près ou de loin, à la règle de Saint Bruno, beaucoup trop sévère et beaucoup trop absorbante pour des laïcs qui n'ont pas à observer le maigre perpétuel, les lever dans la nuit, et dont le but n'est point de demeurer en clôture. Son esprit même n'a rien à voir avec le nôtre. Il sied simplement de lui emprunter son système, mitigé et encore détendu de solitude, et de suivre pour tout le reste la règle de Saint Benoît, prise dans son acception la plus large. Autrement dit, couvent non plus d'une seule pièce, mais coupé par des maisonnettes en tranches. vie moins cénobitique et plus personnelle. Liberté d'aller et de venir avec horaire d'office réduit, permettant de besogner des heures d'affilée en paix. Ce ne serait nullement, ainsi que des gens se l'imagineront, une nouveauté, mais bien au contraire une régression, presque un retour au premier temps du monachisme, où chaque moine résidait dans une hutte distincte et se réunissait avec les autres dans un lieu spécial pour y prier. Cela nous remettrait à la paroisse conventuelle que régissait au IVe siècle Saint Séverin d'Agone dans le Valais. Ce serait un système mixte, un petit peu chartreux et très bénédictin. Ce serait encore, pour les personnes désireuses d'analogie, le type des béguinages tels qu'ils subsistent chez les femmes en Belgique, une série de minuscules maisons dans lesquelles chacun séjourne chez soi et où tout le monde s'assemble dans une chapelle quand l'heure des offices sonne. Comment ne pas rêver, soupira Durtal, d'une existence abîmée en Dieu et aboutissant, par l'aide des prières liturgiques, à des oraisons colorées d'art, lorsque l'on se trouve à Gand ou à Bruges, lorsqu'on pénètre dans ces petites villes situées dans les grandes et si placides et si recueillies, dans ces pieux et avenants béguinages, aux façades si gaies, avec leurs murs de briques roses ou blanchies à la chaux, leurs toits en escalier, leurs fenêtres aux châssis peints en verre véronèse, et tendus, derrière leurs vitres, de stores clairs ou de légers rideaux, leurs portes discrètes ouvrant sur de larges pelouses plantées de vieux ormes très droits, traversées par des allées menant à l'antique église où des béguines prient, les bras en croix. Il ne semble pas qu'il y ait d'endroit plus reposant, et en même temps plus incitant pour un peintre ou un écrivain qui voudrait œuvrer à la gloire de Dieu, un tableau ou un livre. Et Durtal, parti en plein rêve, se remémorait, en les résumant en quelques mots, les statuts de ces asiles. La béguine promettait à sa réception obéissance à la supérieure, à la grande dame, comme on la nomme, et s'engageait à observer, de la façon la plus stricte, les règlements. Elle subissait 2 années de noviciat avant que d'être définitivement reçue, ne se liait par aucun vœu, pouvait se retirer de l'enclos à sa guise. Elle devait aussi justifier d'une rente de 110 francs et subvenir à l'aide de ce pécune et de son travail à ses besoins. Elle portait un costume religieux semblable à celui d'une nonne, était astreinte à participer à quelques offices, à rentrer avant la nuit, et c'était à peu près tout. Oui, mais, ruminait Durtal, ces petites bergeries n'ont jamais pu s'acclimater que dans le nord de l'Europe. Elles ne fructifient plus maintenant que dans la Belgique et la Hollande. Il n'y en a plus en France actuellement. Pourquoi ? Nul ne le sait. Le tempérament froid et sensé, la piété forte et tranquille des races du nord, leur goût d'intimité, sans vie et vaguée au dehors, expliquerait peut-être cette anomalie. Il paraît du reste que même au Moyen-Âge, où la foi était ardente dans les régions du Midi, aucun béguinage ne put, en ces pays, prendre racine. Ces sortes de couvents, dont l'origine remonte à la fin du XIIe siècle, ne se sont en effet épanouis que dans les districts du Nord, de l'Ouest, de l'Est et aussi du Centre. On les découvre nombreux à Cologne, à Lübeck, à Hambourg. Ils foisonnent sur les territoires des Flandres. Ils abondent en France, mais leur habitat semble s'arrêter aussitôt après la Loire. Dans un article sur les béguines de Paris, M. Léon Legrand cite des maisons de ce genre, un peu partout, sauf dans le Sud. Il en signale en Picardie, à Laon, à Amiens, à Noyon, à Beauvais, à Abbeville, à Condé, à Saint-Quentin, dans l'Est, à Reims, à Saint-Nicolas-du-Port, à Châlons, dans l'Ouest, à Rouen, à Caen, à Mantes, à Chartres, à Orléans, à Tours, autour de Paris, à Crépy et à Melun, à Sens, enfin à Paris même, où le roi Saint-Louis en créa une sur la paroisse de Saint-Paul. Ce béguinage, qui était peu différent des béguinages contemporains de Bruges et de Gand, dépérit au bout de 2 siècles, faute de sujettes. L'on n'en compterait plus que 2 en 1471. et depuis je ne connais qu'un essai qui ait été tenté pour rénover en France, c'est Ginessé à Boli, un essai récent. En 1855, un abbé du Soubéran voulut fonder une maison à Castelnaudry, sur le modèle des refuges belges, et il échoua. Il ne s'était évidemment pas rendu compte que le terrain de culture du Languedoc n'était pas du tout celui qui convenait à cette variété de plantes conventuelles, car elle a besoin pour croître et de silence et d'ombre. Il me semble pourtant, ruminait Durtal, qu'en transférant ce système semi-monastique des femmes chez les hommes, il y aurait quelque chose à entreprendre. Le cadre, aisément, on l'imagine dans une grande cité telle que Paris, une villa comme il en existe pour les sculpteurs et pour les peintres, au boulevard Arago ou dans la rue de Bagneux, par exemple, des allées fleuries bordées de maisonnettes et d'ateliers. Il serait facile d'installer, au fond, des salles communes et un oratoire, et cela suggérerait assez bien l'idée d'une miniature de couvent, d'un petit institut de béguins ou de laïcs bénédictins. Des bénédictins surtout, car l'ordre de Saint-Benoît, à l'encontre de beaucoup d'autres, admet les artistes. Sa règle est formelle sur ce point. Et d'ailleurs, cette œuvre serait le prolongement logique de ses offices, l'aboutissement de sa théorie du luxe pour Dieu, la fleur, si l'on peut dire, de ses tiges de prière, de ses touffes d'oraison. Elle est d'essence purement bénédictine, clunisienne, pour employer le mot propre. Les bénédictins modernes voudront-ils ou pourront-ils la réaliser? C'est une autre question. Certes, je n'adhère nullement aux théories de M. Lempre, prétendant que la glorieuse paternité serait étonnamment vexée si elle voyait des laïcs, des moines séculiers, parfaire une œuvre qu'elle serait elle-même incapable d'accomplir. C'est prêter aux fils de saint Benoît des sentiments qu'ils n'ont pas, et c'est très inéquitablement les juger. D'ailleurs, n'ont-ils pas jadis encouragé des écrivains comme Bulteau, l'oblat de Saint-Germain-des-Prés, qui nous a laissé une histoire de son ordre et une histoire du monachisme en Orient? Il n'y a pas de raison pour croire qu'à défaut d'une ardeur égale au travail, la congrégation de Solesmes serait plus étroite d'idées, plus bouchée, que n'était son aïeul de Saint-Maur. Mais enfin, si, à cause même des difficultés que va lui susciter l'exil, elle hésitait à revendiquer son héritage d'art, si elle ne pouvait détacher de son personnel un religieux apte à organiser et à diriger l'oblature, il n'y aurait évidemment qu'à passer outre et à marcher sans elle. Après tout, en y réfléchissant, l'oblature, telle que je la figure, pourrait se créer et se développer sans le secours de ses cloîtres, si elle avait à sa tête un prêtre aimant la mystique et la liturgie, assez éloquent pour les bien expliquer à ses auditeurs et les mettre ainsi en mesure de les utiliser pour leurs travaux, assez saint surtout pour que sa direction ne pût être discutée et fût acceptée sans murmure par tous. Il pourrait d'ailleurs s'affilier lui-même, en qualité d'oblat, à l'un des monastères bénédictins de France ou de l'étranger, et il suffirait dès lors de l'aide temporaire d'un moine afin d'enseigner la psalmodie, le maintien, le chant, afin d'imprimer, dès les premiers jours, la marque particulière, l'étampe monastique de l'ordre aux oblats. La difficulté ne gît point là, mais bien dans le choix du prêtre chargé, à défaut d'un père, de gouverner la barque. Bah, la Providence saura bien le dénicher si elle veut que la place restée vide depuis des siècles dans son église soit remplie. Car enfin, toutes les œuvres affluent, excepté celles de l'art pour Dieu. Les congrégations se sont partagées toutes les autres, sauf celle-là.